Bonjour à toutes et à tous. L'Indonésie compte environ 270 millions d'habitants, atteignant ainsi la quatrième place au classement des pays les plus peuplés de notre planète. Notre invité de ce jour se nomme Pierre Roux. Ce Valaisan va nous parler de l'Indonésie, pays où il se rend assez régulièrement, car sa mère vient de l'île de Célèbes, la quatrième île la plus grande du pays. Voici cette interview réalisée au mois de novembre 2022. Bonne écoute à chacune et à chacun. Pierre, tout d'abord, merci de répondre à cette interview. Première question, quel est ton lien avec l'Indonésie? Pourquoi est-ce que tu y vas parfois?
Parce que ma maman est indonésienne, et donc c'est comme ça que j'ai un lien avec l'Indonésie.
Et est-ce que tu y vas assez régulièrement? Combien de temps tu y vas en général?
Alors, je dirais qu'en moyenne, j'y vais tous les 3 ans. En général, l'été, pendant les vacances d'été, sur un mois.
Très bien. Donc, tu te rends sur l'île de Célèbes, où est née ta mère, où a vécu ta mère?
Alors, oui. Alors, toujours d'abord, atterrissage à la capitale, donc Jakarta. Et ensuite, après 2 ou 3 jours, après avoir visité les membres de la famille qui sont là.
Qui sont dans la capitale?
Dans la capitale, du coup.
Ouais.
Je prends l'avion pour aller au Célèbre.
D'accord. Et puis ensuite, tu m'as parlé d'un assez long voyage. Tu dois encore, une fois que l'avion s'est posé sur l'île,
oui.
Tu dois encore faire un trajet en bus ou...
Exactement, oui, un trajet, parce que le village se trouve un peu de manière éloignée des grandes villes. Donc,
d'accord.
Dans les terres, donc 8-9 heures de bus.
Encore 8-9 heures de bus. Oui. Donc au total, combien d'heures de voyage en principe depuis la Suisse?
Alors sans compter les escales et les pauses, ça fait 26 heures à peu près.
D'accord. Donc, alors quand tu te rends sur l'île de Célèbres, on va être un petit peu plus précis, est-ce que tu vas dans une petite ville, un village?
Alors l'atterrissage se fait dans une ville qui est relativement grande, c'est une ville côtière qui s'appelle Makassar, plusieurs millions d'habitants. Et ensuite, quand je me rends dans le village de mes grands-parents, c'est une petite ville de maintenant, je pense, une dizaine de milliers d'habitants. Donc, c'est vraiment la plus grande ville de la région. Puis après, il y a plein de petits villages tout autour.
Et toi, tu vas dans un petit village ou dans cette ville?
Alors, dans cette ville avec mes grands-parents.
D'accord. Puis,
parfois, ça m'arrive d'aller dans les villages des environs.
Une autre question qui se pose, il y a un terme lié à cette île, c'est Toraja. Alors, si j'ai bien lu, c'est en même temps une ethnie, une langue et une région, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, oui. Exactement, donc une ethnie, une langue et une région. Donc une ethnie parce que ça forme un peuple avec une histoire bien spécifique. Une langue parce que ce peuple parle une langue qui leur est spécifique. Et puis la région parce que c'est délimité par un territoire.
Et est-ce que c'est une région montagneuse ou plutôt plate?
Alors, la région du Toraja est plutôt montagneuse, donc il y a des sommets qui sont à plus de 3000 mètres. Et peut-être plus au sud de la région, c'est un petit peu plus plat, mais dans l'ensemble, c'est assez montagneux.
Et est-ce que la manière de vivre des gens dans cette région est très différente de la capitale? Est-ce que, par exemple, il y a beaucoup moins de voitures est-ce que c'est des modes de vie très différents par rapport à Jakarta?
Alors, il y a plusieurs modes de vie qui coexistent dans une région ou une autre, mais par contre, on ne trouvera pas dans cette région des très grands supermarchés ou des très grands immeubles comme à Jakarta, avec toutes les grandes infrastructures qui sont propres aux grandes villes. Et par contre, à l'inverse, au Toraja, on trouvera beaucoup plus de personnes qui vivent encore de l'agriculture et des rizières et des métiers un peu plus primaires.
Très bien. Et puis, au point de vue médical, est-ce que c'est quand même, est-ce qu'ils ont ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a assez de médecins? Est-ce qu'il y a des hôpitaux? Ou est-ce qu'ils doivent aller très loin pour aller dans un hôpital, par exemple?
Alors, maintenant, ils s'en sortent assez bien. Donc, on peut pas comparer avec la Suisse, qui a beaucoup de matériel pour faire des appareils et des machines pour diagnostiquer toutes sortes de maladies. Mais en Indonésie, on trouve cela seulement dans les toutes grandes villes. Donc parfois, il faut faire un long trajet s'il faut faire un examen important. Mais dans les petites villes, il y a des hôpitaux avec tous les soins de base qui sont desservis. Après, c'est vraiment pour les petites régions reculées, où là, c'est des fois un peu plus compliqué.
Donc, en principe, les gens ont accès via une assurance. Est-ce qu'il y a une sécurité sociale un peu pour tout le monde? Est-ce que presque tout le monde peut aller chez un médecin sans trop se soucier de, même si c'est des gens qui sont peut-être assez pauvres?
Alors, normalement, s'il y a vraiment besoin d'aller chez le médecin, tout le monde peut le faire et il trouve, enfin, si vraiment il y a besoin d'aide, ben, ils peuvent trouver de l'aide avec le voisinage ou bien éventuellement avoir des dettes. Mais après, je connais pas toutes les situations en Indonésie, mais le système d'assurance, ben, il ne semble pas qu'il y en ait vraiment un hein, qui soit obligatoire comme en Suisse.
Très bien. Et toi, tu parles une langue indonésienne. Est-ce que c'est l'indonésien ou est-ce que c'est une langue locale?
Alors, il y a une langue qui a été établie pour tout le pays, donc le Bahasa Indonesia. Et à côté de cela, il y a des centaines de dialectes locaux, dont le Toraja, justement.
Et toi, tu parles quelle langue?
Alors, moi, j'ai appris avec ma maman l'indonésien, donc
D'accord.
la langue pour tout le pays.
De ralliement un petit peu de. Ouais.
Tous les Indonésiens comprendre, puis comprendre entre eux. Puis ben, après, quelques mots de Toraja, mais pas plus que le temps.
Très bien. Et puis l'indonésien, est-ce que par exemple l'alphabet c'est le même que le nôtre ou c'est un autre alphabet?
L'indonésien, oui, c'est le même.
D'accord.
Dialecte, pas forcément toujours.
Donc tu comprends presque tout en indonésien quand il
Oui,
parle.
donc la langue nationale. Oui.
Et quelle est la religion de cette région? Donc on sait qu'en Indonésie, la religion principale de l'Indonésie, c'est l'islam, mais dans cette région, quelle est la religion principale?
Alors dans cette région, je crois que c'est un petit peu plus équilibré entre islam et christianisme. Donc ça c'est pour les deux religions principales. Et ensuite, il y a des minorités avec bouddhisme et hindouisme. Et toutes ces religions sont aussi empreintes de la culture locale, avec un peu des tendances animistes.
Une autre question, quels sont les sports favoris d'abord en Indonésie et puis ensuite dans la région d'où viennent tes grands-parents?
Alors, le sport favori, franchement, je ne saurais pas dire comme ça. Tout le monde aime bien, enfin, en général, les personnes aiment bien taper un peu dans un ballon, jouer au foot, comme ça, n'importe où, que ce soit sur un stade ou sur une place
Le
plate.
football, on dit que c'est un sport un peu universel parce que c'est aussi très facile à jouer. On peut
C'est
le
très
jouer un petit
facile,
peu
ouais, il faut un ballon
partout.
pour jouer partout, ouais.
Ouais. Lors de la préparation de cette interview, tu m'as dit que là-bas, la famille souvent a un sens un petit peu plus large que la famille étroite qu'on a souvent aujourd'hui en Europe. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Alors oui, alors déjà, tout d'abord, quand on considère comment est-ce qu'on appelle les personnes dans notre famille, on appelle par exemple maman, notre propre maman biologique, mais aussi un peu toutes ses sœurs, donc des tantes. De même pour les grands-mamans, on appelle non seulement grand-maman notre grand-mère biologique, mais aussi ses sœurs, qu'on appelle Oma. En fait, Oma, c'est grand-maman en indonésien. Et après, la notion de foyer, c'est pas du tout le même qu'en Suisse. En Suisse, souvent, on a des foyers où on a une maison pour une famille de 4 personnes. Et puis, c'est vraiment bien, bien délimité. Alors qu'en Indonésie, souvent, c'est un petit peu plus labile. Les personnes viennent et partent en fonction des circonstances et des besoins. Donc, souvent, il y a des cousins et des cousines qui séjournent pour quelques mois. Par exemple, pour une formation qu'ils doivent faire dans un tel lieu ou un autre, et pas forcément seulement des gens de la famille, mais aussi d'autres personnes, par exemple des étudiants qui font un peu une année dans un ménage pour aider un peu aux tâches ménagères et cuisine.
Donc ça veut dire que c'est des étudiants qui logent gratuitement et puis en échange ils donnent un bon coup de main, quelque chose comme ça ou...
Alors, ils donnent un bon coup de main, puis en échange, ils reçoivent quand même un petit pécule.
D'accord.
Qui peut être utile pour eux.
Ouais. Si j'entends bien, c'est souvent d'assez grandes maisons, hein, alors peut-être, pour pouvoir loger d'autres personnes, etc., ou d'assez grands appartements.
Bon, ouais, je dirais que c'est pas plus grand, pas plus petit qu'en Suisse. Les habitations sont souvent assez simples. Puis les chambres ne sont pas très grandes non plus. Il y a un lit, une armoire, puis c'est tout.
D'accord. Du point de vue des mariages, Est-ce que souvent les parents choisissent le futur époux là, ou la future épouse?
Alors, au Toraja, dans le passé, c'était souvent le cas. Donc, souvent des mariages qui étaient plus ou moins arrangés. Maintenant, ça existe encore, mais il y a quand même plus de liberté pour les futurs mariés.
Maintenant, on va parler d'un autre pan de la vie en Indonésie, c'est la cuisine. De quoi est-ce qu'elle est constituée principalement?
Alors, l'aliment de base, c'est sans aucun doute le riz, parce que le paysage est vraiment couvert de rizières. Donc, ça, c'est le pain quotidien en fait, qu'on mange matin, midi, soir, à tous les repas. Et après, c'est accompagné souvent un peu de légumes bouillis à l'eau ou bien frits, un peu des beignets. Ça peut être, il faut aussi avoir du maïs. Et après, bah, on peut avoir des œufs parce que souvent, les particuliers ont des poules et des poulets. Dans leur jardin.
Très bien. De temps en temps, quand même, on mange des pommes de terre ou du pain, ou presque jamais.
Alors, pommes de terre, oui, ça quand même. Et pain, un petit peu moins quand même. Pain, c'est souvent des toasts qu'on achète au supermarché. Mais le pain, c'est vraiment pas l'apanage de l'Indonésie, enfin, en tout cas du Toraja.
Ouais. Beaucoup de poissons aussi.
Et beaucoup de poissons, ça oui, par contre, oui. Il y a, au marché, on trouve un peu partout du poisson. Ben, c'est quand même un pays insulaire où il y a beaucoup d'océans et si c'est pas les océans, bah c'est les fleuves. Et donc la pêche est très fréquente et on mange beaucoup de poissons.
Et puis, quand tu vas là-bas, en général, comment quels sont tes loisirs? J'imagine que tu visites beaucoup la famille surtout. Ou est-ce que tu as d'autres loisirs parfois?
Alors, à côté de visiter la famille, enfin, qui prend quand même une très grande partie du temps vécu là-bas en raison de la largeur de la famille. Les loisirs, c'est ben, tout simplement visiter de beaux points de vue, ou bien aussi il y a deux ou trois piscines publiques, donc parfois on peut aller se baigner là, aller visiter ben, des marchés. Souvent les marchés ils se font vraiment à même le sol, avec des stands qui sont posés. Au bord des routes comme ça. Enfin, ça c'est pas vraiment un loisir, mais ça fait partie du passe-temps quotidien d'aller s'approvisionner en riz, en légumes, en poissons, au marché. Puis,
Remarque, on peut considérer ça comme un loisir. Un beau
oui.
marché, c'est quelque chose d'extraordinaire, de vivant. Et chaque pays aura un type de marché différent. Ça peut être considéré comme un loisir. Donc
Alors oui, c'est vrai que oui. Quand on n'y va pas souvent, puis seulement pour un mois, c'est vrai que ça change du quotidien, alors que pour les personnes qui vivent là-bas, ben c'est leur réalité, puis c'est le quotidien, quoi.
est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque particulièrement quand tu es là-bas?
Le fromage.
Ah, quand même,
Ah,
quand même.
ça clairement, oui.
Donc, ils n'ont pas du tout de fromage, ou ils en ont très peu?
Ils ont très peu, voire pas du tout. Et puis les fromages, enfin, les fromages, c'est un peu des fromages industriels, un peu comme ça. Enfin,
Oui,
t'as pas beaucoup, quoi.
moins personnalisé, moins. Pierre, si tu devais maintenant conseiller à un Suisse d'aller visiter l'Indonésie, est-ce que tu conseillerais une île, une région plus qu'une autre?
Alors franchement, je connais pas tout l'Indonésie vu que quand je vais, c'est vraiment pour la famille.
Puis c'est
Puis
immense, hein, c'est un pays immense, hein, bien sûr.
donc c'est immense, oui. Mais ça dépend qu'est-ce que les personnes qui voyagent recherchent. S'ils recherchent, si souhaitent faire de la plongée sous-marine par exemple, ben, c'est clairement pas au Toraja qu'il faut aller parce que là c'est dans les terres, alors que la plongée sous-marine, il y a d'autres endroits qui sont très bien pour le faire. Après, si c'est pour vraiment partager la culture locale, ben le Toraja convient très bien, par exemple.
Oui.
Donc, pour vivre avec les gens, parce que les gens, en général, sont très accueillants.
Ouais. Dans cette région, par exemple, il y a quand même des infrastructures touristiques, hôtels ou assez peu?
Oui, et ça s'est développé, je pense, ça s'est beaucoup développé sur la fin du siècle dernier. Donc, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et puis du communisme qu'il y avait en Indonésie avant, mais et puis après ça s'est un peu démocratisé, puis ça s'est développé. On a des hôtels pour les touristes.
Très bien. Donc, et dans ces hôtels, on parle assez facilement anglais ou...
Oui. Ben,
Ok.
d'ailleurs, tous les enfants apprennent l'anglais en tant que deuxième langue.
Et puis les plages sont assez loin de la région où tu vas ou...
Oui, elles sont assez loin.
Ah là, il y a quand même
Donc,
un petit
parce que c'est
bois.
vraiment au centre de l'île, dans les terres et les montagnes. Hein. Donc, il faut faire plusieurs heures de route pour atteindre une plage. Après, il y a une grande rivière qui traverse la région, mais ce n'est pas vraiment une plage.
Très bien. Bah écoute, il me
Voilà.
reste à te remercier pour cette interview et le meilleur pour toi.
Merci Christophe.
C'est ainsi que se termine cette interview. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à bientôt.